Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.
Bonsoir à tous chers amis et bienvenue dans les vraies voix qui font bouger la France. À partir de 19h30, parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouverez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart en compagnie de ses invités. Mais avant ça, place comme tous les lundis soirs aux voix de la politique. Dans un instant avec Maxime Thiebaud et Nicolas Corato, nous allons parler de ces régionales. Nous sommes censés voter le 13 juin puis le 20 juin en cas de second tour. Mais cette élection aura-t-elle lieu à cause de la crise du Covid? Question numéro 1. Question numéro 2. Et si nous repoussons les régionales à l'année prochaine, est-ce qu'un report des régionales peut bouleverser la présidentielle? Une espèce de sondage à taille réelle, en grandeur nature, à quelques semaines des présidentielles. Est-ce que des mauvais résultats du parti présidentiel pourraient condamner la candidature d'Emmanuel Macron? On en parle dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique.
Bonsoir à tous, chers amis. Bienvenue dans les voix de la politique. Comme tous les lundis soirs, on est ce soir avec Maxime Thiebaud. Bonsoir à vous.
Bonsoir Jean-Marie.
Docteur en droit, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle. C'est publié chez VA Presse. Nicolas Corato est avec nous également. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Maxime.
Fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, publié chez Eredium. Nous sommes censés voter mi-juin pour les élections régionales. Premier tour le 13 juin, deuxième tour le 20 juin. Mais le Covid est passé par là et le gouvernement attendra les recommandations du Conseil scientifique pour savoir si ces élections sont maintenues ou si elles sont repoussées à l'année prochaine. Et si ces élections sont repoussées, est-ce qu'elles vont bouleverser la présidentielle qui est bel et bien prévue pour 2022 justement? C'est toute la question. Et si la République En Marche ne remporte aucune région, que le Rassemblement National en remporte plusieurs, c'est tout à fait possible aussi, que la gauche n'arrive à faire l'union dans aucune région, et si ça changeait tout pour la présidentielle? Maxime Thiebaud.
Il y a une vraie question qui est posée. Déjà, quelle date sera retenue pour les élections régionales et donc les élections départementales derrière? Alors pour l'heure, c'est le mois de juin. La situation sanitaire prête à se poser la question, est-ce qu'on pourra faire une campagne qui respectera l'égalité des armes entre les candidats? Moi, je me pose sincèrement la question, puisque je suis attaché à la politique, à l'ancienne, c'est-à-dire à celle où on serre des mains, on rencontre les gens, c'est-à-dire que...
Enfin, les mains, politiques ou pas politiques, ça fait un an que vous en serrez plus, concrètement.
Oui, mais les gens ont besoin de contact, ils ont besoin de sentir le candidat, le porte-à-porte, ça marche très bien. Moi, j'ai fait des départementales en 2015, en divers droites, j'ai fait 16% parce que j'ai tapé à toutes les portes. Les gens étaient contents de me voir, on échange, on discute, on les écoute. Et ça, c'est le
charme de la relation campagne. Politique. Mais est-ce que ça change tout?
Moi, ça avait fait 16% avec le soutien de personne.
Oui, mais enfin, vous n'étiez pas le seul à faire du porte-à-porte.
Non, mais après, il y a une rencontre entre des électeurs et un candidat. Mais le problème des régionales, c'est pareil. Moi, j'ai fait les régionales en 2015 sous les couleurs de Nicolas Dupont-Aignan, en Bourgogne-Franche-Comté. On avait notre caravane de campagne, on se posait sur les marchés, on discutait avec les gens, et j'étais à 0,5 dans les sondages, et j'ai fini à 5,2, parce qu'on a fait une campagne de terrain. Et c'est très important, je pense, que de retrouver la campagne électorale, la campagne de terrain pour que les gens se sentent en confiance.
Donc on ne vote pas
connaissent
pour
leur candidat.
On ne doit pas voter tant qu'on n'est pas sûr de pouvoir voter.
Le risque, c'est d'avoir une élection qui soit ultra clivante, simplement basée sur des partis politiques et non plus sur les candidats. Ça, c'est un risque. Et derrière, la défiance déjà des Français à l'égard du personnel politique risque d'être accrue parce qu'ils se diront moi, de toute façon, j'ai voté par défaut parce qu'on ne les connaissait pas, on ne les a pas vus. Donc ça, c'est un peu le risque. Je pense que l'opposition, comme la majorité, doit avoir à l'esprit que si les régionales doivent bien fonctionner, et d'autant plus ces départementales, il y a tout intérêt à ce que ce soit une vraie campagne qui se passe et pas quelque chose comme ça avec la distanciation sociale, en fait.
Nicolas Corato.
La vraie difficulté, c'est pas la date du scrutin, c'est effectivement la campagne. Est-ce qu'on pourra tenir une campagne normale? Donc ça, bon. Avec une vraie limite, c'est que moi, je pense que les Français n'ont pas la tête à des élections. Alors, c'est vrai aujourd'hui, on ne peut pas parler pour juin, mais quand même, je pense qu'on a tous, et le corps social, a d'autres sujets que nécessairement le renouvellement électoral des départements et des régions, même si c'est un moment important de démocratie. Avec une distinction entre les départementales et les régionales. S'il y a un tropisme parisien, les départementales, on ne les calcule pas, on ne les voit pas, mais en fait,
elles sont
dans beaucoup de pays et de régions en France, c'est très important. C'est très important parce qu'il y a un vrai lien entre les conseillers départementaux qui sont élus sur des cantons et la population. Ce sont des élus de proximité et beaucoup de Français y tiennent. C'est une élection d'ailleurs dans laquelle il y a généralement de très fortes participations partout en France, sauf en région parisienne où là tout est mélangé, on ne comprend plus qui est qui, etc. Les régionales, c'est différent. Les régionales, ça n'a jamais été une élection qui a suscité un élément de proximité. Elles ne sont pas territorialisées. Et quand vous êtes conseiller régional, vous êtes conseiller régional de la région, vous n'êtes pas affecté à un territoire particulier. Très compliqué d'avoir une affection ou un intérêt particulier. Donc, il va y avoir, au-delà de la campagne, et moi je rejoins ce Maxime, cette difficulté à faire campagne, une difficulté aussi à faire participer, à intéresser les Français à des sujets qui vont être nécessairement quand même des sujets locaux, de proximité, même s'ils sont très importants, alors qu'on aura tous la tête ailleurs. La vaccination ne sera pas terminée, nous ne serons pas sortis de la pandémie, la crise sociale et économique sera plus là encore qu'aujourd'hui. Peut-être que les activités économiques qui sont fermées n'auront pas réouvertes, et tout le monde se posera des questions pour l'emploi, pour la santé, et peut-être pas pour les sujets qui seront sur la table, effectivement. Donc ça risque de devenir une élection biaisée, une élection faussée, une élection qui risque aussi de donner des résultats complètement délirants politiquement et qui vont peut-être produire aussi des conséquences au niveau national. Je prends un exemple, mais effectivement, si le Rassemblement national prend plusieurs régions, et c'est tout à fait possible aujourd'hui, je ne vois pas qu'il ne puisse pas y avoir de conséquences sur le gouvernement actuel. Je ne vois pas qu'il ne puisse pas y avoir de conséquences sur la manière dont Emmanuel Macron va appréhender les élections présidentielles.
On peut faire un petit historique d'ailleurs. Les précédentes régionales, le Rassemblement national avait toutes les chances ou presque de remporter trois régions. La région Sud, donc la région PACA aujourd'hui, la région Hauts-de-France et la région Grand Est au second tour. En Bourgogne-Franche-Comté aussi. Au second tour, la gauche s'était retirée partout où elle était largement éliminée. C'était d'ailleurs Christophe Castaner, le candidat socialiste en PACA. Et à la fin, finalement, le Rassemblement national avait été largement battu. Il y avait eu un front républicain. Là, le Front National et le Rassemblement national est bien placé toujours dans un certain nombre de régions.
Mais Emmanuel Macron l'a très bien compris. C'est pour ça qu'il avait un peu forcé la main à Jean-Louis Debré pour que l'élection régionale ait lieu après les élections présidentielles et législatives. Jean-Louis Debré l'avait dit à la je sais plus quelle commission au Sénat, en disant « moi, ils ont essayé de me forcer la main, j'ai pas accepté ». Et en même temps, je comprends qu'Emmanuel Macron ait cherché à forcer la main parce qu'il sait très bien que c'est inconstitutionnel. Et il avait besoin de l'appui, il avait besoin du support de l'ancien président du Conseil constitutionnel pour pouvoir faire une manœuvre telle qui serait celle d'organiser les élections départementales et régionales après l'élection présidentielle de 2022. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux grands principes. Le premier, c'est le principe de périodicité, c'est-à-dire que les élections doivent avoir lieu à des périodes qui sont prédéterminées. Et le deuxième, c'est qu'il ne doit pas y exister de manœuvre. Et la manœuvre, elle est caractérisée lorsque, par exemple, vous organisez une élection après l'élection présidentielle, alors que la présidentielle a pu se tenir. Donc, on peut repousser, à mon sens, et des professeurs de droit... Je rejoins beaucoup de professeurs de droit, comme le professeur Romain Rambaud, qui est un grand spécialiste de droit électoral, qui explique très clairement qu'on peut repousser les régionales et les départementales jusqu'à pratiquement l'échéance présidentielle, mais on ne pourra pas les faire après. C'est inconstitutionnel. Et ça, Emmanuel Macron l'a compris. Et je pense qu'il est très embêté, parce que alors maintenant, s'il prend une calotte, parce qu'à mon avis, La République En Marche va prendre une déculottée lors des régionales, s'il prend une déculottée au mois de juin, il sait pertinemment qu'il y aura un impact très important sur l'élection présidentielle.
Et s'il la prend au mois d'octobre ou au mois de novembre, ce sera encore pire.
Pour lui. Oui, et en même temps, si c'est proche de la présidentielle et qu'il arrive à faire à ce que la campagne présidentielle se mélange un petit peu avec l'élection régionale...
Ça peut tout changer.
Donc, je ne sais pas...
C'est très difficile de savoir ce que ça peut changer. On va faire un tour des régions quand même, parce qu'il y a des choses assez intéressantes qui se passent. Si vous allez, par exemple, en Occitanie, qui est présidée par Carole Delga, qui est socialiste. Pour l'instant, c'est Carole Delga qui est en tête, suivie de la droite complètement décrochée à 13%. Et aussi juste devant le Rassemblement national mené par Jean-Paul Garraud, qui lui est à 26%. A priori, la gauche l'emporte de peu, mais l'emporte quand même en Occitanie, dans la région PACA, et ça c'est intéressant. Un sondage commandé plus ou moins en secret par La République En Marche a révélé que le Rassemblement national l'emporterait en PACA, sauf dans un seul cas de figure, que la droite fusionne avec La République En Marche dès le premier tour. C'est la seule solution pour la droite et le Rassemblement National et La République En Marche d'empêcher le RN de l'emporter. Le Rassemblement National est en position de force, Nicolas Corato, pour les régionales.
Oui, moi je me méfie aussi des sondages et de l'interprétation des sondages qui sont commandés par les partis politiques. On voit bien quelle est l'orientation qu'on peut donner quand on est à La République En Marche à ces sondages. Il ne faut pas oublier aussi certaines alliances qui peuvent aller de la gauche à la droite. Oui. Et qui seront certainement plus naturelles, qui ont déjà eu lieu, pardonnez-moi, mais vous le rappeliez, aux dernières élections régionales, heureusement que la gauche était là, non pas pour faire de bons résultats, ce n'était pas le cas, mais en tout cas pour respecter l'esprit républicain et faire barrage au Rassemblement national. On va voir ce qui va se passer cette année, notamment entre La République En Marche et la droite, entre La République En Marche et la gauche. Dans les Hauts-de-France, par exemple, la gauche arrive très unie. Ça, c'est aussi c'est un sujet très important.
Il y a une expérience d'union de la gauche menée par l'eurodéputé Europe Écologie et Vert Karim Adeli. Ça, c'est dans les Hauts-de-France.
Oui, et qui pour l'instant fonctionne. C'est-à-dire que toutes les listes sont fusionnées.
C'est ça. Derrière... Ça ne se traduit pas encore d'ailleurs dans les sondages, mais ce sera intéressant de regarder ce que ça
donnera. Regardez. Alors, vous allez me dire que c'était un mauvais exemple, mais le printemps marseillais, c'est un précédent très intéressant.
Ça, c'était les municipales à Marseille.
On a quand même réussi à conquérir cette ville qui était difficile, là aussi où le Rassemblement national pèse très fort dans les élections et la gauche a réussi à se rassembler et à gagner.
Donc vous croyez à une surprise à gauche possible dans certaines régions ?
Moi je crois qu'on risque d'avoir de très grosses surprises sur le vote écologiste qui devrait bénéficier à une gauche qui arriverait à se rassembler, ça j'y crois profondément. Je pense que tout l'électorat de gauche qui avait voté traditionnellement pour Emmanuel Macron va revenir vers des listes de gauche, de vraie gauche et non plus la liste de centre-droit de La République En Marche. Et je me demande également si le Rassemblement National ne va pas pâtir du bon bilan des élus de droite sortants. Je pense à Xavier Bertrand, je pense à Valérie Pécresse
en Ile-de-France. Elle est donnée en tête.
Voilà, donc qui sont de très très bons candidats de droite et qui sont prêts, qui sont capables également de parler à un électorat populaire que le Rassemblement National aura plus de mal à aller. Même si il y a de très très bons candidats pour le Rassemblement National.
Laurent Wauquiez, qui préside la région Auvergne-Rhône-Alpes, est plutôt aussi en position de force. Là, c'est une gauche divisée.
Il y a quand même une prime au sortant régional qui est très forte, même si c'est de la pure proportionnelle. Mais voilà, moi je vois à peu près ces équilibres. Vote écologiste, toujours vote protestataire sur le Rassemblement National, mais peut-être pas si important que ça. Et une belle prime au sortant, parce qu'il faut reconnaître à ces sortants-là, même s'ils sont de droite, mais je le dis volontiers, qu'ils ont plutôt un bon bilan et qui se sait. Enfin, je veux dire, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, même Laurent Wauquiez sont des gens qui ont fait du travail dans leur région. On peut discuter de leur bilan, mais c'est pas des apathiques. Ils n'arrivent pas.
Alain Rousset aussi sortant, qui est plutôt en position de force, lui, est socialiste pour le coup.
Ou Carole Delga, que vous avez cité en Occitanie, qui manifestement également bénéficie de son bilan. Donc,
La vraie question, ça va être celle de la dynamique, et elle est très bien soulevée par Nicolas. C'est-à-dire qu'à Marseille, au-delà de l'addition des voix et des partis, on a vu une dynamique.
Ça, c'était au municipal.
Ça va être une vraie question, et on va voir quelle réponse va être donnée à l'appel de Jean-Luc Mélenchon quant à avoir une seule tête de liste LFI et le reste les Verts. Et ça, je pense que Marine Le Pen l'a très bien compris. Elle a bien compris qu'elle doit créer des dynamiques, qu'elle doit créer des alliances, qu'elle doit être en capacité de proposer des choses différentes.
Les alliances avec qui
elle a essayé aujourd'hui, elle a lancé l'Avenir français avec les anciens de chez Nicolas Dupont-Aignan.
Elle avait déjà lancé le Rassemblement Bleu Marine Gilbert Collard, ça n'a jamais marché.
Elle envoie des éléments, elle présente des candidats qui viennent pas, qui sont pas des historiques du Front National, donc du Rassemblement National. Vous voyez Monsieur Garraud, Laurent Jacobelli, ancien de la France.
On peut parler de Thierry Mariani, qui est un ancien député Les Républicains. C'est le candidat qui est plutôt en bonne position, manifestement, pour la région PACA. Laurent Jacobelli, qui est l'ancien vice-président de Debout la France, lui est candidat dans la région Grand Est. Et vous avez également Jean-Paul Garraud, en Occitanie, qui est un ancien juge et député Les Républicains.
Elle a joué vraiment l'ouverture. Pour le moment, ça ne se voit pas. Paradoxalement, ça ne se voit pas. Il faudra voir quelle dynamique elle va arriver à créer, parce que c'est vrai que si en face la gauche, et ça peut être une intelligence que peut avoir la gauche, arrive à montrer cette dynamique via les réseaux sociaux et via les outils qui seront les seuls qu'on aura en période épidémique, on peut avoir des expressions différentes.
Ce qui est intéressant, c'est Nicolas. Aussi de voir la gauche unie, si ça se réalise. Et moi, je crois qu'il faut écouter...
C'est votre éternel espoir, il faut aussi rappeler.
Oui, mais il faut écouter l'appel du pied de Jean-Luc Mélenchon. Ils sont suffisamment rares pour ne pas les prendre au sérieux. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, propose finalement une synthèse qui permettrait d'unir la gauche dans toutes les régions de France. En tout cas, que la France insoumise se rallie à une dynamique d'union de la gauche. On aurait, et ce serait une première... une gauche très unie, moi je le souhaite, face à une droite très désunie, puisque entre La République En Marche, qui je vous le rappelle en tout cas pour moi, et pour un bon nombre d'électeurs, se situe à droite, Les Républicains, et le Rassemblement national, ça fait quand même beaucoup de choix pour l'électorat de droite face à un choix assez monocorde pour l'électorat
de droite. Vous croyez vraiment que l'électeur de La République En Marche est à mettre dans le même camp et ressemble à l'électeur du Rassemblement national, celui qui vote pour Marine Le Pen à Hénin Beaumont n'est pas forcément
non,
celui qui vote pour
Je dis juste que ce sont trois programmes de droite, oui, avec des nuances
de
différentes.
Vue, oui.
La seule différence, c'est que si cette gauche arrive à s'unir, il faudra regarder le programme. Et si on retrouve, bon, on ne va pas débattre sur le fond, mais ça peut donner des vrais intérêts et des vrais discours, des vrais éléments de langage, aussi bien au Front National qu'à des candidats très à droite chez les Républicains, sur l'indigénisme, le racialisme, etc. Et on peut avoir une vraie politisation qui peut être intéressante. Et je pense que là, le Rassemblement National, qui patauge peut-être parfois à trouver un discours sur des régionales, parce que c'est complexe pour le coup, parce qu'on est vraiment sur du programmatique local, là peut avoir une vraie porte.
Pourquoi est-ce plus difficile de mettre au point un programme à l'échelon régional qu'un programme à
l'échelon
national ? Parce
qu'il faut l'expliquer. Moi, je l'ai vu, mes régionales de 2015, c'était difficile parce que il faut supposer déjà que l'électeur connaisse sa région, ce qui n'est pas forcément le cas. Et deuxièmement, arriver à lui présenter un programme en quelques éléments, qu'il arrive vraiment à bien le comprendre, à le cerner, et que nous, on arrive à se distinguer des autres partis. Et ça, c'est pas évident. C'est-à-dire que quand vous regardez, mis à part les subventions aux associations, là, vous pouvez vraiment avoir du vrai clivage. Mais quand on commence à parler du transport en commun, des lycées et autres, là, on est sur une politique qui est beaucoup plus précise, et c'est beaucoup plus compliqué.
On le rappelle d'ailleurs, ça fait partie
des
compétences de l'échelon régional, et qui sont très importantes pour la région. Les lycées, notamment, sont supervisés par la région. Les transports en commun, notamment...
Le TER. Monter dans un TER,
tout le développement économique.
Tout le développement économique, exactement, j'allais le dire.
Et là, c'est des axes hyper importants. Oui. Et pour se distinguer, ce n'est pas évident. Honnêtement,
peut-être
des fois,
la prime
au
sortant qu'on peut observer de temps en temps. Quoi qu'il en soit, revenons au parti présidentiel. Dans aucun des sondages qui ont commencé à tomber au coup de goutte, région par région, La République En Marche n'est en mesure d'emporter une seule région. Aucun sondage ne la place en position favorable. Elle aussi autour de 10%, selon les régions, plutôt moins, ce qui signifie que ce sera une force d'appoint pour le second tour. Il n'est même pas certain qu'elle puisse se maintenir au second tour. Est-ce que un résultat pareil à quelques mois des présidentielles, ça condamne une candidature présidentielle d'Emmanuel Macron, Nicolas Corato?
Emmanuel Macron a toujours nous a habitués à escalader les élections. C'est-à-dire, je fais un petit pont, un grand pont, et j'oublie les résultats et je n'en tire quasiment aucune conséquence politique.
Ce que d'autres présidents de la République ont fait avant lui, qui perdaient aussi leurs élections intermédiaires.
Oui, bien sûr, mais il y avait parfois des changements de gouvernement. Lui nous a habitués quand même à autre chose. Bon, une sorte d'indifférence par rapport à ces scrutins intermédiaires. La vraie question, c'est la proximité de cette élection régionale avec l'élection présidentielle et son envie, qui est quand même toujours très très forte, de se mêler de tout et de penser qu'il n'y a que
l'envie
lui.
L'envie d'Emmanuel Macron.
Donc, est-ce qu'il va personnaliser ce scrutin? C'est-à-dire, est-ce que, si cette élection est reportée, est-ce qu'il ne va pas être tenté de lui-même se jeter dans la bataille pour limiter les dégâts, voire même pour entraîner une sorte de dynamique?
Est-ce qu'il est capable de limiter
les
dégâts?
Moi, je suis quand même assez sceptique. Je pense qu'il a autre chose à faire, par ailleurs, et qu'on lui reprocherait, pour le coup, très très fortement, de s'impliquer dans cette campagne électorale, alors que le pays ne sera pas sorti de la pandémie. Donc, je pense qu'il va plutôt jouer l'indifférence par rapport à un scrutin qui est perdu d'avance pour La République En Marche.
Et s'il est perdu d'avance et perdu partout, est-ce que ça lui fait perdre des voix pour l'élection présidentielle, si elle a lieu six mois après, Nicolas Corato?
Je pense que, notamment s'il a... Je vais vous dire, Emmanuel Macron a choisi son ennemi, c'est le Rassemblement National. Et il a choisi le match. Le match, c'est les progressistes contre les populistes. C'est une erreur, à mon avis, stratégique et démocratique majeure, même si elle arrange le Rassemblement National. Si le Rassemblement National prend une seule, voire même plusieurs régions, c'est un échec total pour la stratégie d'Emmanuel Macron. Et ce qui risque de se produire, c'est que le doute ne vienne pas chez lui directement, mais de son entourage, de La République En Marche, des gens qui l'ont soutenu depuis longtemps, qui verront effectivement de plus en plus
que
le danger qu'il y a à s'enfermer dans ce duel qui, à mon avis, est un duel perdu d'avance pour Emmanuel Macron.
Le mot de la fin, Maxime Thiebaud.
Moi, je pense que Emmanuel Macron a l'arme de destruction massive face aux Républicains.
Et face à la droite.
Face à la droite LR, parce que beaucoup de candidats prétendant à la présidentielle à droite jurent sur l'élection régionale. Et il a une arme de destruction massive, c'est-à-dire que s'il commence à les soutenir ou à jouer déjà le second tour lors du premier tour, ces derniers vont perdre leur électorat populaire de droite, qui risque de se déporter vers Marine Le Pen, et on risque de voir de potentiels très bons candidats à une élection présidentielle perdre toute chance de pouvoir se présenter parce qu'ils perdraient l'élection.
Ou de Valérie Pécresse qui auront besoin
d'Emmanuel
des voix marcheuses.
C'est pas Marine Le Pen. Emmanuel Macron n'a pas peur de Marine Le Pen parce qu'il pense au fond de lui-même qu'elle ne gagnera pas la présidentielle. Mais il a peur de Xavier Bertrand. Il a peur de Valérie Pécresse. Il a peur de ces candidats-là parce qu'il se dit s'ils arrivent à susciter un espoir avec un petit regain de démocratie à la sortie du Covid, ils peuvent l'emporter. Et il se souvient de 2017, où c'est Nicolas Dupont-Aignan qui avait ses 5% à empêcher l'accession de François Fillon au second tour. Donc ça, il l'a à l'esprit, il le sait très très bien et donc il va tout faire, à mon avis, pour jouer ce jeu comme il le fait avec le Renaud Muselier dans le Sud.
Le candidat de droite sortant
pour
en
pouvoir
région
faire
PECA.
Tomber les candidats LR, quitte à faire gagner le Rassemblement National, ça le désintéresse complètement.
Y aura-t-il une fusion, dès le premier tour d'ailleurs, entre la droite et la République En Marche en région PACA? Certains marcheurs plaident pour l'instant, le candidat Renaud Muselier n'est pas tout à fait prêt à franchir le Rubicon. Merci à nos deux voix de la politique du soir.
Merci.
Maxime Thiébaud, docteur en droit, auteur du livre « Gilets jaunes vers une démocratie réelle » publié chez VA Presse, et Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grandes plaidoiries et grands procès, c'est publié chez Redium. Merci à tous les deux. La suite des vraies voix qui font bouger la France, parlons vrai toujours, mais avec les entrepreneurs, cette fois sur Sud Radio et sur Bismart. Vous retrouvez Stéphane Soumier.